Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et c'est d'autant plus vrai en plein été, en canicule. Ici, chaque semaine et plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël pour le SmackDown du 10 juillet 2020. Et pour ce SmackDown exceptionnel, je suis avec, comme toujours, l'ami Papy.
Bonjour les enfants, comment ça va?
Non, c'est toujours moi Raphaël. J'ai beau faire semblant, je n'y arriverai pas à imiter Papy. Je suis solo SmackDown, malheureusement c'est ainsi. C'est week-end prolongé, c'est le 14 juillet bientôt. C'est la fête nationale en France, si vous ne le savez pas, si vous nous écoutez d'un lointain pays. Et puis en plus, il y a du confinement, il y a des stars de la WWE qui sont restées à la maison. On a eu un show de SmackDown vraiment, on va dire, un petit peu cloisonné, avec pas mal de segments, notamment un dont on va parler, qui a occupé une bonne partie du show, qui était une rediffusion. On sait qu'il y a eu des catcheurs qui ont été testés positifs. Du coup, nous, on prend pas de risque à catch-up, on apprend qu'il y a des cas positifs, on a renvoyé tous nos vieux en maison de retraite, pas de papy, pas d'under-tonton, il ne reste que le seul de l'équipe qui est moins de 30 ans, si ma mémoire est bonne, mais je crois bien que mes collègues sont plus vieux que moi. Bref, on est parti pour un solo, pour un monologue, j'espère que ça va quand même, vous prendrez le temps d'écouter, du coup ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude. Donc le SmackDown a commencé par un segment du Miz TV, avec le Miz et John Morrison, le Miz qui introduit son invité du soir en nous disant que voilà, il est celui qui affronte sa destinée, qui revient toujours face à après avoir vécu des bas, il revient toujours vers le haut. Bref, il nous annonce Jeff Hardy, mais John Morrison lui s'amuse régulièrement à soudre de la gueule du futur invité, hein, se moquer de sa peinture faciale ou de son addiction pour l'alcool ou autre. Bref, Jeff Hardy finit par arriver. Le Miz lui demande s'il a un clip. Jeff Hardy n'a pas de clip à diffuser. Donc Miz et Morrison envoient leur propre clip, qui est en fait une review, un résumé de la feud entre Jeff Hardy et Sheamus, mais clairement au désavantage de Jeff Hardy. Hein, on a toute l'histoire sur ses addictions passées, sur le fait que Sheamus lui renvoie ça à la gueule. On voit le fait que Jeff Hardy perd au match qu'ils ont eu à Backlash. On revoit la douloureuse scène du toast qu'on a eu la semaine dernière. Bref. On revoit la FUD, et le Miz se fout un peu de Jeff Hardy en lui disant « Ben voilà, normalement dans les films, dans les histoires, quand le gentil surpasse toute l'adversité et revient, et ben il gagne, et sauf que toi, là, Jeff Hardy, toi, tu fais rien comme tout le monde, rule breaker, tu perds. » Et le Miz, il dit que sa fille à lui, au Miz, hein, la petite chez Monroe Sky, ou je sais plus comment elle s'appelle, les enfants du Miz, regardez Miz and Mrs. pour le savoir. Et la fille du Miz, elle comprend pas trop le catch, elle est toute petite, mais elle aime beaucoup Jeff Hardy parce qu'elle aime bien les couleurs, elle aime bien que ça sautille et tout, mais le Miz, il aimerait pas que sa fille s'attache à quelqu'un qui est comme ça aussi, aussi autodestructeur et dont elle connaît pas la partie obscure. Jeff Hardy les rassure et leur dit, vous savez, moi j'ai connu bien pire dans ma vie, j'ai connu des bas bien plus trash que vous ne connaîtrez jamais, c'est pas les quelques moqueries grasses de Sheamus qui vont me faire replonger dans mes addictions. Et même Jeff, il veut prouver, encore une fois, il rejoue ce rôle de l'étendard de l'anti-alcoolisme en disant voilà, je veux prouver à tous les gens qui m'écoutent chez eux que c'est possible, qu'on peut changer, qu'on peut se battre, qu'on peut s'en sortir. Et là, Miz et Morrison, ils proposent un truc. Ils disent mais voilà ce que tu devrais faire. Eh ben, tu veux une revanche, c'est sûr, là, sur Sheamus, tu devrais le défier dans un bar fight. Ah ouais, John Morrison, il est à fond. Il dit imagine, tu affrontes ton ennemi physique qui est Sheamus et tu affrontes ton ennemi métaphorique, il dit l'alcool, ton addiction passée. Donc Jeff Hardy il dit ah ouais c'est vrai que ça fait une sorte de handicap match. Alors Jeff Hardy il croit que le Miz et Morrison sont envoyés par Sheamus pour proposer cette stipule, ce qui a pas l'air d'être le cas, visiblement ça sort plutôt de leur propre chef. Mais Jeff Hardy il dit ok, je suis d'accord, et par contre il défie un peu l'un des deux ce soir. Il dit là ce soir vous me foutez de ma gueule sans qu'il y ait de répercussions, non, lequel de vous je prends ce soir sur le ring. Miz et Morrison ils veulent pas trop. Jeff Hardy il les défonce et il les fout tous les deux dehors, et puis quand on revient après la pub, c'est finalement un match entre le Miz et Jeff Hardy qui a été décidé, avec Morrison à l'extérieur du ring, qui d'ailleurs va jouer un rôle très important dans le match puisqu'il évite à plusieurs reprises, il évite par exemple au Miz d'encaisser un Swanton Bomb en le tirant vers l'extérieur. Bon, Jeff Hardy en profitera pour sauter sur les deux depuis le turnbuckle. John Morrison il profite aussi d'un moment où l'arbitre a le dos tourné pour faire tomber Jeff Hardy. Bref, il se passe pas mal de choses. Le Miz va projeter John Morrison à l'extérieur dans le plexiglas. À un moment, il y a un petit botch là qui m'a fait mal. Jeff Hardy, il est coincé les têtes entre les cordes par le Miz qui lui fait... je sais plus comment on appelle cette prise, mais bref, il fait un mouvement de bascule pour que la tête de Jeff frappe les cordes. Il frappe bien sur la tête, là, ça devait faire mal. Bref, le Miz domine, il envoie ses yes kicks, ou je ne sais plus comment ils appellent, ses hit kicks, pardon, maintenant. Et puis, comme d'habitude, à un moment donné, Jeff Hardy se réveille, il enchaîne, leg drop, drop kick, etc. Et puis, au moment où il prépare le Swanton Bomb, on revoit Sheamus qui apparaît sur les écrans du Titantron, qui est encore en train de boire une bière. Il a une petite Guinness, une petite binouze, une brune, là, il est là, ouais, c'est bon, c'est de la bonne, tu devrais tester, Jeff Hardy, etc. Pendant ce temps, le Miz, puisque le match a continué, le Miz tente un roll-up, mais c'est Jeff Hardy qui inverse la prise et qui réussit à placer un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Jeff Hardy, qui s'en va très vite. Et Sheamus regarde sur le Titantron d'un air totalement vide. On ne sait même pas s'il a vu que Jeff Hardy avait gagné. Bref, qu'est-ce que ça nous dit, tout ce segment? Moi, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Le Miz et Morrison, je les trouve toujours assez... assez fun à voir, que ce soit dans les Miz TV ou même sur le ring. Jeff Hardy a fait une partition assez classique qui commence quand même pas mal à se répéter, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Le côté, voilà, j'ai été alcoolique, j'ai eu des bas, maintenant je remonte, je reviendrai plus là où j'étais, je suis l'étendard de l'alcoolisme et de tous les gens qui se battent contre ce problème. Bon, ça commence à être un peu répétitif. Par contre, Extreme Rules arrive, on sent qu'on va avoir un pay-per-view très cinématique puisqu'il y aura déjà... au moins deux matchs hein, qui risquent d'être cinématiques. Donc là, un troisième, un bar fight. Et j'ai envie de dire oui, oui, oui. Moi, je suis totalement pour qu'ils se mettent sur la gueule, qu'ils pètent des bouteilles, qu'ils cassent la gueule à des serveurs à nouveau. Je veux ça, qu'ils passent à travers des tables en bois. J'aimerais un vrai bar fight, c'est-à-dire que ça soit vraiment, vraiment hors du ring, vraiment dans un vrai bar et vraiment cinématique. Pas qu'ils nous fassent un coup... Ah, ça me ferait chier qu'ils fassent un truc du genre on est sur le ring, on est au Performance Center, mais juste on a des bouteilles et un décor vaguement cheap de bar autour, comme ils sont capables de nous faire. Non, un vrai bar, et voire même un pub à l'anglaise, à l'irlandaise, là, j'ai envie de voir. Et puis après, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup à jouer? Je sais mieux s'il est quand même multiple champion du monde tag team avec une équipe qui s'appelait The Bar. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une évocation de ça? Est-ce que Cesaro pourrait venir aider son copain? Bon. On verra plus tard que Cesaro a l'air parti sur d'autres routes, mais il y a quelque chose à jouer là dans ce match et j'ai hâte de voir ça. Justement, en parlant de Cesaro et Nakamura, son nouveau partenaire tag team, ce soir ils affrontent pour les titres tag team le New Day et la nouvelle intervieweuse qui s'appelle Sarah je ne sais quoi leur dit est-ce que ça sera un upset, est-ce que ça sera une surprise, est-ce que ça sera une vexation que vous gagnez ce soir contre le New Day, et ça les vexe à Cesaro et Nakamura, ils disent bah non, nous on est... Vous savez pas qui on est ou quoi? On est les meilleurs au monde, c'est pas du tout décevant si nous on bat le New Day, c'est pas du tout une surprise. Cesaro, il dit même qu'il en a marre du New Day, qu'il est sick du New Day. Ça le rend malade, hein, ces trois mecs qui changent jamais, qui diffusent des t-shirts, des céréales et tout. Alors c'est marrant, il m'a paru vieux Cesaro dans cette interview. Je sais pas s'il a maigri, s'il est fatigué, mais je trouve que ses traits du visage, sa barbe de 3 jours, j'ai l'impression qu'il avait pris un coup de vieux. Bon, c'est peut-être qu'une impression. Et ensuite, nous retournons au ring pour un petit passage féminin. Donc, Bayley et Sasha Banks arrivent. Elles sont à peine sur la rampe que Nikki Cross arrive par derrière et se met à attaquer Bayley. Puis Alexa Bliss vient l'aider. Et donc, on se retrouve en tag team match. Bayley et Banks contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Au début du match, à un moment donné, alors qu'elles sont en train de dominer les deux championnes, donc Bayley et Banks vont s'énerver contre les commentateurs, on comprend pas trop pourquoi, elles les trash talk, et du coup Nikki Cross pendant ce temps en profite pour voler la ceinture de champion du monde de Bayley et parader un petit peu avec, là, faire une sorte de danse du ventre, elle a l'air toute contente de son coup. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, les deux championnes dominent Alexa Bliss pendant longtemps. Puis il y a un hot tag, Nikki Cross rentre fort, elle nettoie bien le ring. Elle est proche de placer la victoire presque sur Bayley, mais Sasha Banks brise le pin. Et ensuite, Bayley réussit à voler un pin avec un appui un peu raté. Elle essaye de s'appuyer sur les cordes, mais elle est trop loin. Mais bref, elle s'appuie quand même. On va dire qu'elle s'appuie, parce que les commentateurs nous disent qu'elle s'appuie. Bref, c'est pas bien de s'appuyer sur les cordes, c'est interdit. Bailey vole le pin, c'est vraiment pas très gentil. Pendant que Sasha avait envoyé Alexa Bliss dans les barricades et que Nikki Cross tapait Sasha du coup à l'extérieur. Victoire donc de Bailey et de Banks, les champions de tag team. Mais honnêtement, ça n'a pas du tout fait avancer grand-chose dans cette histoire. Nikki Cross est relativement sympathique, je trouve, en challengeuse. Elle joue à fond le jeu de cette wild card, de ce côté un petit peu foufou qui fait qu'on ah, on croit pas à sa victoire, mais on se dit qu'il peut y avoir des choses rigolotes dans le futur match pour le championnat du monde. Après, Bailey et Banks n'ont pas parlé. Ça fait très 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 longtemps qu'elles ne sont pas venues dans un show, je pense, pour parler au micro et pour faire une longue session de blagues beauf et d'autocongratulations. Mais en même temps, juste dans le ring, ça a été assez léger, quand même assez pauvre. Je n'ai plus mon ami Papy à côté de moi, il serait là. Ah, si seulement il était là, il serait là, il dirait « Ce match a duré 11 minutes 12, mon petit !» Mais il n'est pas là. J'espère qu'il va bien, qu'il est bien ventilé, qu'il est bien hydraté par les infirmières. Bon, on va avoir une petite pensée pour lui, lui qui aime tant Bailey et Banks. Mais ça n'a pas été quelque chose de passionnant. Et puis bon, bah voilà, on a l'affiche bookée. On sait que Sasha Banks sera du côté de Raw pour le prochain pay-per-view à affronter Asuka et que Bailey va affronter Nikki Cross. Donc on comble, mais ça n'ajoute pas grand-chose à la feud, clairement. D'ailleurs, Bailey n'a pas paru plus énervé que ça qu'on lui vole sa ceinture, donc c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. Et puis, j'en parlais en introduction, nous partons dans le passé. Ah oui, papy, qu'est-ce que tu me dis?
C'est le coffre à catch, mes enfants!
Eh oui, le fameux coffre à catch cher à nos amis Chéro et Ajus. On repart à Money in the Bank, on repart un mois dans le passé. Et on retrouve, 2 mois pardon, dans le passé, et on retrouve le match de Bray Wyatt contre Braun Strowman à Money in the Bank. Le match où Bray Wyatt était arrivé en tenue Firefly Funhouse avec son gros pull rouge et où il a affronté un Braun Strowman qui avait ressorti son masque de mouton noir et où Braun Strowman avait fini par gagner. Donc tout ça pour nous rappeler que au pay-per-view qui arrive, à Extreme Rules, ce sera un swamp match, donc un match du marécage avec le retour du Bray Wyatt en gourou du Bayou, en mangeur de monde, en Eater of Swords. Malheureusement, j'avoue que je suis encore une fois très 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 circonspect, déçu, perplexity de voir qu'on fout le champion du monde dans un match sans le titre mondial en jeu. Et ça, c'est très très bizarre que ça soit Bray Wyatt matériel, c'est-à-dire que ben voilà, ça, c'est le troisième match en 2-3 ans où Bray Wyatt se retrouve dans un match avec un champion du monde sans que le titre soit en jeu. C'était le cas de l'horrible House of Horror match entre lui et Randy Orton. Randy Orton venait de lui piquer son titre de champion du monde à WrestleMania. Bray Wyatt faisait un House of Horror match, mais il voulait pas le titre mondial, Bray Wyatt. Non, non, il s'en foutait, Randy Orton voulait pas le remettre en jeu, donc ok, très bien. Ensuite, cette année dernière, la TLC, Bray Wyatt était champion du monde, il affrontait le Miz. Mais pas pour le titre mondial, non plus, non, non. Et là, Braun Strowman est champion contre Bray Wyatt, mais pas pour le titre mondial, non, non. Et ce qui me fait chier, c'est que je trouve que ça spoile vachement. Est-ce que ça spoile le résultat? Je ne sais pas. Mais disons qu'on a plus de chances de gagner le match du marécage si ça fait pas perdre le titre à Braun Strowman. Encore que dans la progression logique, il faudrait finir par une apparition de The Fiend. Donc logiquement, Braun Strowman devrait gagner ce match-ci pour que Bray Wyatt soit obligé de lâcher le Fiend dans lui. Bon, à voir. J'ai de bons espoirs sur ce match-là, puisqu'on a eu un très bon Firefly Funhouse à WrestleMania. Mais déjà, je pars avec un a priori assez négatif. Mais je serais très content de revoir l'ambiance du gourou du Bayou, que j'aimais beaucoup, beaucoup, et qui reste quand même un de mes grands regrets à la WWE. La Wyatt Family, de toute façon, ça reste un de mes grands regrets. Pour moi, ça a été une très grosse erreur de vouloir splitter tous ces mecs. Je pense que la WWE a trop cru que Bray Wyatt, à lui tout seul, pouvait porter ce personnage. Non, moi j'ai trouvé ça bien, les deux Golgoths qui auraient pu très bien faire des champions tag team excellents. D'ailleurs, ils avaient fait d'excellents matchs contre les Usos et les New Day, même quand ils avaient eu leur gimmick très courte d'ailleurs des frères Marteau là. Bon, déception, ils sont partis maintenant, même si on peut toujours imaginer un retour de Rowan, qui sait. Et Bray Wyatt va ferrailler seul et on verra bien ce que ça donnera. Et donc ça nous prend voilà une bonne partie du show, quand même bien 20 minutes de revoir ces matchs-là. On retrouve le New Day en interview avec la fameuse Sarah, Et le New Day dit qu'ils savent très très bien qui sont leurs adversaires du soir, ils sont surexcités, ils n'ont pas peur, mais ils n'ont jamais pris leur adversaire à la légère. Ils ont perdu plusieurs fois leurs titres mondiaux, puisqu'ils en sont à 8 titres, donc c'est qu'ils les ont gagnés 8 fois, mais qu'ils les ont perdus 7 fois quand même. Et ils disent que voilà, non, ils sous-estiment jamais leurs adversaires. Mais bon, ce soir, ils sont motivés à gagner, ils sont surexcités. Ils ne sont pas aussi surexcités que nous par rapport au segment qui nous attend. Inédit dans l'histoire du catch, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est un karaoké, une compétition de karaoké entre les, j'allais dire les low-carders, c'est un peu violent, mais entre les antagonistes de la division féminine de SmackDown, les protagonistes, pardon. Jey Uso est le présentateur. Jey Uso, bon, il est pas mal, il a une voix, bon, il a sa voix du Uso, il nous porte là, il nous met hey, yeah, my boy, yeah, machin, on est dans un truc de Ok, yeah. Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina et Naomi vont chanter des theme songs de la WWE et ça va être concours d'applaudissements pour la gagnante. Lacey Evans commence en nous chantant une sensuelle version de With My Baby Tonight de Jeff Jarrett. C'est pas mal, c'est sexy, c'est déhanché, c'est joli. D'ailleurs, elle chante pendant longtemps et le public applaudit. Félicitations, Jey Uso est assez content. On envoie Dana Brooke tout de cuir et de lunettes de soleil vêtues pour nous chanter la Hunky Tunk Man, mais ça dure pas très longtemps, Jey Uso lui dit vite d'arrêter. Ça sera encore pire pour Tamina qui s'élance dans un Time to Play the Game de Triple H. Ouais, fait exprès de chanter complètement à contre-temps avec 3 ans de retard. Ça dure 3 secondes et Jey Uso lui dit c'est de la merde, arrête-toi là. Par contre, c'est vraiment quand même pas juste. Jey Uso, il laisse Naomi chanter American Dream. Petit coucou à la AEW et à la famille Rhodes, American Dream. Qui dure assez longtemps, voilà. Naomi qui danse, qui se déhanche. Oui, c'est bien le theme song de Dusty Rhodes, hein, American Dream, que le doute me vient. Oui, c'est. Bref. Si c'est pas ça, désolé, c'est un botch. Ça arrive, je ne serai pas le seul à avoir botché dans ce SmackDown. Bref, évidemment, au concours d'applaudissements, Naomi gagne, Jey Uso est surexcité, voilà, Naomi a gagné. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça ouf, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y ait spécialement un ou une gagnante dans l'affaire. Sauf que les filles, ça les énerve, et surtout, Lacey Evans se jette sur Naomi, elle commence à se battre, à se foutre sur la gueule. Jey Uso essaie de les séparer, les deux, elles enlèvent leurs chaussures, elles sont en mode « Ah ouais, tu veux te battre? Ouais, toi aussi? Ouais, allez, on va se battre !» Et puis bah voilà, on a un vrai match qui commence après la pub. Lacey Evans contre Naomi en tenue de karaoké, donc avec une jolie robe rouge à pois pour Lacey Evans. Naomi, sa tenue fluo. Donc Evans est très très vénère, elle tape fort et on assiste tout simplement à un heel turn hein, ces dernières semaines. Lacey Evans, elle avait feudé contre Bayley et Sasha Banks, elle était complètement en face, elle avait fait un face turn pendant l'hiver. Bah là, elle repart plutôt du côté des méchantes visiblement. Bon, à l'extérieur du ring, il y a Dana Brooke et Tamina qui restent regardées. Hein. Visiblement, elles, ça les intéresse pas d'avoir un match. Non, ils n'ont pas envie de catcher. C'est pas comme si elles avaient besoin d'avoir du temps in-ring hein, si elles veulent faire carrière. Bref. Sauf qu'à un moment donné, Lacey Evans glisse à l'extérieur du ring. Elle met à se disputer, à trash-talker un petit peu les deux autres. Donc, elle finit tabassée par tout le monde. La pauvre Lacey Evans est tabassée par Naomi. Dana Brooke et Tamina, sauf que au bout d'un moment, alors on comprend rien. Tamina et Dana Brooke finissent par se mettre l'une l'autre sur la gueule. Finalement, elles se sont pas liées d'amitié très longtemps. Et voilà, donc ça fait un espèce de brawl sans intérêt. Enfin, ouais. Donc le côté karaoké machin, à la limite, on est dans un show sans public, on peut tenter ce genre de choses. C'est pas ouf, mais bon. Mais c'est. Ouais, c'était court, mais c'est le brawl est pas. Le match est sans intérêt, le brawl est sans intérêt. Ces quatre-là n'ont pas beaucoup d'intérêt. Moi, à mes yeux, de toute façon, il y a que Lacey Evans que je trouve intéressante et qui a fait une belle carrière assez inattendue. Roster avec un peu de talent in-ring et de la personnalité. Je fais partie des gens qui n'ont jamais aimé et n'aimeront jamais Naomi. Et là, ce soir, elle continue avec ses couleurs fluo et son sourire crispé là, à ne pas me plaire. Et les deux autres, bah, c'est des sous-jobbeuses et low-carders. Donc, bon, je pense que c'était vraiment du remplissage suite probablement à des situations. Ça, plus le segment review de Braun Strowman et Bray Wyatt, voilà, ça occupe le show. On croise quand même en interview AJ Styles, le champion intercontinental, Il nous dit qu'il a humilié Drogulak la semaine dernière, qu'il est quand même déçu que ça soit ça, l'adversité face à lui, et que bah il va garder son titre au chaud tant qu'il n'y a pas mieux, quoi. AJ Styles, il veut pas sortir pour n'importe qui. Sauf que l'intervieweuse l'annonce que bah non, la semaine prochaine, il affronte Matt Riddle pour le titre intercontinental. Bah donc AJ Styles, il est pas content. Il dit bah, allez, c'est qui ce mec là? Il a battu qui et tout? Il a battu toi, AJ Styles. Ouais, non, c'est pas bien, je suis vénère, nanani, nanana, bref, il nous joue un peu sa pleureuse. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un personnage qu'on a vu et revu, ça, le champion pleureuse qui veut pas affronter ses adversaires. Je veux dire, Seth Rollins l'a fait, tout le monde l'a fait, et tous les champions, ils l'ont fait, quoi. Bref, voilà. AJ Styles, Daniel Bryan l'a fait aussi, d'ailleurs, quand il était champion heel. Bref, voilà. AJ Styles, vénère, champion intercontinental, on ne le verra pas plus ce soir, on ne verra pas Matt Riddle non plus, on est déjà au main event. Donc le New Day affronte Cesaro et Nakamura, l'artiste collective, pour un titre de champion du monde tag team. Cesaro, il a une veste là bien moulante de sport avec une zippeuse. Il m'a fait presque penser qu'il faisait partie de Imperium, ce fameux clan de NXT et de NXT UK, mené par Walter, ce fameux clan de catcheurs qui considère que le ring est sacré, qu'à la WWE ou dans le catch, on ne devrait pas mettre des costumes de clown, on ne devrait pas danser comme des acrobates et machin, et envoyer des pancakes, et avoir des flonflons, des couleurs et tout, que non, il faut être une espèce d'athlète à l'ancienne et devenir juste pour catcher un gymnaste. Sa gimmick est assez proche de ça à Cesaro au final, hein. C'est le puriste, c'est l'artiste collective. Moi je me dis qu'il y a un truc à jouer là, et si NXT UK, donc la NXT de Grande-Bretagne, est dans une situation délicate, va peut-être fermer, Walter le champion d'ailleurs de NXT UK, le leader de Imperium, est un catcheur qui est dans une situation assez drôle. C'est lui en fait qui tient la négociation avec la WWE. Il doit être très demandé, il doit avoir largement le choix de là où il veut bosser, et clairement il annonce en interview que lui, ça l'intéresse pas trop d'aller vivre aux États-Unis, ce qu'on peut comprendre dans l'état actuel des choses, et donc il veut bien bosser pour la WWE, mais il aurait préféré rester en Grande-Bretagne, quitte à venir de temps en temps faire une petite pige à la WWE. Moi je me dis que j'aimerais bien le voir, je suis pas un grand fan de Nakamura depuis qu'il est à la WWE. Je dois dire, le fait qu'il soit en tag team, c'est beaucoup mieux que quand il est en solo. Mais à la limite, si on échange Nakamura et qu'on remplace par Walter et qu'on a une tag team Walter Cesaro Imperium du monde, ouais, ça me plairait bien. Moi, j'aimerais bien que Walter, il se décide à, au lieu de venir faire une pige de temps en temps, qu'il accepte de venir faire des runs. C'est-à-dire, allez, il vient faire 6 mois à la WWE, allez, il vient vivre 6 mois aux USA. Il perd une défaite cuisante à un moment donné, il s'en va, il retourne catcher où il veut, en Grande-Bretagne s'il veut. Un an après, il revient faire 3-4 mois pour un Rumble, pour une Road to WrestleMania. Non, je préférais le voir à temps plein à la WWE, mais je pense que c'est jouable. Et vraiment, Cesaro, là, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, alors je sais pas, j'ai pas regardé NXT ces dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose de plus évident? Est-ce que le Imperium recrute? Ils sont champions à NXT aussi, tag team. Il y a peut-être un truc, ou alors je me fais des idées, mais voilà, je me suis peut-être fait un booking dans ma tête. En tout cas, le temps que je me fasse ce booking dans ma tête, le match commence. Les challengers, isoler Kofi Kingston, à le dominer pendant longtemps dans le coin du ring en faisant des tags rapides, et puis ça change de côté et Cesaro encaisse le Unicorn Stampede du New Day. Kofi Kingston, à un moment donné, s'élance sur la troisième corde, saute à l'extérieur du ring et il encaisse un énorme percut de Cesaro qui était en bas. Big E, lui, va avoir son moment de force à faire les belly to belly suplex à Cesaro dans tous les sens, mais il rate le dernier splash. Cesaro sort sa série de uppercut et de elbow sur le fameux Big E. Mais à un moment donné, le New Day repart en force. Il porte une espèce de bombe sur Cesaro, une double bombe. Biggie s'élance pour porter la bombe, Cesaro fait ensuite, bref. Mais Kofi Kingston se retrouve face à Nakamura qui est remonté sur le ring, Cesaro aussi, ils sont les quatre à se mettre sur la tronche. Ça tape dans tous les sens, l'arbitre il compte, 5, hein, etc. Le brawl, ça n'arrête plus, c'est le bordel, tout le monde se met sur la gueule, plus personne ne respecte rien, des dents, c'est pas bien, l'arbitre il sonne tout simplement une double disqualification. Ben ouais, je suis désolé, on peut pas en rester là, on n'est pas à Extreme Rules, les amis, on n'y est pas encore, donc vous vous calmez, les règles sont les règles. Bref, ça n'arrête pas trop les belligérants. Intérieur, Cesaro envoie Biggie la tête contre la table des commentateurs, il sort une table de sous le ring. On se souvient que, il y a quelques semaines, il avait déjà voulu sortir une table, mais il avait été empêché ensuite par le New Day de mettre ses plans à exécution. Sauf que ce coup-ci, ben, il le fait. On envoie Biggie un petit coup dans les escaliers. Et sur le ring, Cesaro et Nakamura couchent Biggie sur une table qu'ils viennent de dresser, les fameuses tables en bois chères à la WWE, sur tréteau. Cesaro se met sur le turnbuckle. Il prend Kofi Kingston en powerbomb et le powerbomb sur Biggie, sur la table, et ça passe à travers la table. Et ensuite, les deux challengers, la tag team suisso-japonaise ou nippono-suisse, célèbrent ce qui n'est pas une victoire, mais ce qui est quand même. Je pense que là, c'est bon, on peut le dire sans trop prendre de risques. On aura un tables match tag team à Extreme Rules, et ça me tente pas mal. Parce que si la stipu, c'est le premier qui passe à travers une table, son équipe a perdu, je sens que ça peut être un truc hyper vitaminé où on n'arrête pas de faire de tenter des trucs, puis de les rater, les uns sauvent les autres et tout, jusqu'à ce qu'on ait un segment final assez important. Et puis, j'ai souvent remarqué que les table match sont des très bonnes stipulations pour changer une ceinture. Je me souviens par exemple que Sheamus a gagné son premier titre mondial en faisant passer John Cena à travers une table. Que Alexa Bliss avait gagné son premier titre mondial en faisant passer Becky Lynch à travers une table. En fait, la stipule de passer à travers une table, elle peut tellement scénariser, comment dire, une sorte d'accident, de bon, ben, le champion, il fait pas gaffe, et puis il glisse, ou il tombe, ou c'est tellement ponctuel. Je veux dire, le champion peut être en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, peut même dominer le match et quand même passer à travers une table. Que du coup, c'est une stipu qui permet un changement de titre ou une défaite d'un champion sans que ce soit très affectant sur sa gimmick et sur son aura. Voilà, si Cesaro fait tomber Kofi Kingston à travers une table, on va pas se dire ah bah le New Day, ça y est, ils sont finis, ils arrêtent pas de perdre. Non, c'est pas grave en soi de passer à travers une table. Mais ça peut permettre un changement de titre. Donc, moi, ils m'ont l'air très très chaud, Cesaro et Nakamura, ils m'ont l'air très très bons. Et de toute façon. Après 8 règnes de champion du monde, après, je sais plus combien de temps ils sont là, les New Day, mais 5 ans de domination, pour moi, ils ont basculé, le New Day. Depuis notamment le règne de champion du monde de Kofi Kingston, ils sont plutôt dans une fin de carrière, pourrait-on dire, et ils sont plutôt dans un rôle à valoriser d'autres équipes. Parce que eux, ils sont installés, eux, ils sont les meilleurs, eux, ils ont éclaboussé le ring de leur talent pendant des années. Et là, il continue d'être très bon. Je veux dire, il serait champion du monde une nouvelle fois l'an prochain ou en fin d'année, deux ou trois fois. Ils sont toujours hyper légitimes. Mais là, c'est bien d'avoir un petit peu de nouveau, même si avec Cesaro et Nakamura, on va pas dire qu'on a des perdreaux de l'année. Hein. On a deux quadragénaires. Mais au moins, la tag team est nouvelle. Il y a un vent de fraîcheur et ça me plaît bien de les imaginer champions. On verra. On verra. C'est pas gagné. C'est pas fait. Le New Day a sûrement de la ressource. Mais sur le principe, ça me plaît bien. Et c'est là-dessus que finit ce SmackDown. Voir Cesaro en main event de SmackDown. Les amis, il fallait bien un Covid, je pense. D'ailleurs, c'est l'avis de mon ami Papy qui m'a envoyé ce message. Il a envoyé son mot de la fin. Papy, ton mot de la fin, tu peux me le dire sur ce SmackDown?
Eh oui, les enfants! Eh bien, mon top, c'est justement Cesaro qui explose le New Day à lui tout seul. Le flop, c'est tout le reste du show, c'était vraiment pas bon, mais plus particulièrement les finishes tout foireux, les roll-ups pourris. Et je donne une note de 1,25 parce que c'était vraiment pas bien.
Merci papy pour ce témoignage hors du commun. Pour ma part, je te trouve un peu dur, mais c'est vrai que j'ai été assez surpris moi-même par ce show. On a pas trop compris là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on avait si peu de catch, hein. Je crois que c'est toi qui nous disais ça un petit peu plus tôt dans une conversation sur notre Discord. Allez sur le Discord de Catch Up pour témoigner, les amis, pour discuter. Allez aussi sur Twitter, Instagram, Facebook, Catch Up CDC. Écoutez-nous sur YouTube, écoutez-nous sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify. Mettez-nous des cœurs, des pouces, des plus 1, abonnez-vous, tapez la cloche comme on dit. Donc sur ses réseaux sociaux, sur le Discord, papy, tu te demandais voilà si SmackDown a son roster malade. Et puis que ça te donnait l'impression un peu qu'il y avait des catcheurs bloqués en Arabie Saoudite ou bloqués par un volcan. C'est vrai qu'on a eu tellement 4 matchs, dont 2 qui finissent par un roll-up, le match de Jeff Hardy et le match tag team des filles. Un match qui n'était pas vraiment zin pour l'histoire du karaoké et un match final quand même relativement qualitatif qui finit en DQ. Donc ouais, c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Moi, je vais mettre mon top... Qu'est-ce que je pourrais dire, dis donc. Top à la vachette. Ouais, on va rester sur ton idée. Désolé, papy, de te copier un petit peu. Je fais mon flemmard, mais... Top au main event en général, dont Cesaro bien sûr, mais top au main event, même si bon, un match qui finit en disqualification, c'est jamais ouf, mais on a une phase de domination des challengers qui a été assez agréable à suivre. Et pour le flop, ouais, moi je vais mettre surtout le segment karaoke, ouais, pas de tout terrible, hein. Les filles qui catchent en petite robe et tout, c'était vraiment pas très bon. En plus, voilà, on n'a rien compris des alignements, tout ça qui se met sur la gueule, Tamina, Dana Brooke, etc. Donc, c'était pas terrible. Moi, je vais mettre un petit 1,5 parce que, mine de rien, j'ai bien aimé l'intro et la fin, en fait. Le Miss TV avec Jeff Hardy, ça n'a pas fait avancer les choses beaucoup, mais c'était efficace. Le Miz et Morrison sont très divertissants. Jeff Hardy s'en sort pas mal. Ça fait chier d'avoir Sheamus juste en vidéo, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, on a un gros trou noir, tout le corps du show, avec tout ce qui était la rediff de Braun Strowman, le match de Bayley et des filles, le karaoké, tout ça. Et après, on a un bon main event qui sauve un petit peu le truc. Mais c'était très pauvre, et j'espère qu'on aura mieux la semaine prochaine, parce que là, on arrive vers le Go Home Show. Enfin, cette semaine, quand vous nous écouterez, ce dimanche. C'est Extreme Rules Horror Show et on verra bien ce que la WWE va nous proposer. Heureusement, c'est plus intéressant quand même du côté de Raw. On va vite voir cette semaine si la situation de Covid touche Monday Night Raw. J'imagine que la WWE a été assez intelligente pour faire travailler les catcheurs du show rouge et du show bleu sur des jours sérieux. Risque de contamination, mais qui sait, on verra bien. D'ici là, j'espère que ça vous a plu de m'écouter en solo. C'est jamais facile, mais voilà, on le fait. Quand il y a besoin, on le fait. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine pleine de catch. Merci d'avoir écouté Catch Up, d'avoir écouté Raphaël. La prochaine fois, on sera plusieurs, je vous l'assure. Moi, je pars en vacances. Je pars pendant une semaine. Je vous laisse au bon soin de mes amis. Ciao, ciao. Et à très bientôt sur Catch Up.